Nos invités, Astrid de Villene, vous êtes chef du service politique au Huffington Post. Votre dernier livre, Les sept péchés capitaux de la gauche, est publié mercredi chez Jean-Claude Lattès. Alix Bouillaguet, vous êtes éditorialiste politique à France Info. Et Guillaume Daré, vous êtes grand reporter au sein de la rédaction du service politique de France Télévisions. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, les députés sont de retour aujourd'hui à l'Assemblée nationale et bien sûr, on va scruter pour savoir si Adrien Quatennens et Julien Bayou seront présents, car ils sont, vous savez, l'objet de deux affaires. Je vous propose de revoir ce sujet qui a été diffusé hier soir dans France 3, dans le 19-20 de France 3. C'est un sujet de Caroline Motte et Valérie Lucas.
Adrien Quatennens, Julien Bayou, deux affaires embarrassantes pour la NUP. Sur ce marché à Lille, la simple évocation du nom d'Adrien Quatennens semble gêner ces militants de la France insoumise.
On ne veut pas parler de ce sujet, c'est que je distribue un tract, là vous nous dérangez, merci.
Soupçonné de violence conjugale, le député est visé par une nouvelle main courante de son épouse, cette fois pour des faits de harcèlement par SMS.
Est-ce que vous pensez qu'il peut rester député ?
Non. Je pense que quand on représente une nation, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça.
Se mettre en retrait de la vie politique, oui. Démissionner s'il est condamné, oui. Mais tant qu'il n'est pas condamné, faisons faire les choses.
Selon nos informations, Adrien Quatennens ne sera pas dans l'hémicycle. De son côté, le député François Ruffin demande un temps d'apaisement.
Et je ne pense pas que ça soit là, dans l'urgence, quand il y a le feu, qu'on doit décider si un homme doit abandonner la vie publique définitivement ou non. Je pense qu'on peut se donner un temps de suspension.
Du côté des Verts aussi, on aimerait bien tourner la page des affaires, mais ce n'est pas pour tout de suite. Cet article dans Libération révèle que Julien Bayou aurait vécu plusieurs mois sous la surveillance de militantes féministes. Résultat, ambiance de crise au Conseil fédéral du parti.
Vous le savez, Julien Bayou, notre secrétaire national, a démissionné lundi matin de son poste.
Une démission consécutive aux propos de Sandrine Rousseau. Elle avait révélé le signalement de Julien Bayou pour des violences psychologiques à la cellule interne du parti. Elle considère que le député ne doit pas s'exprimer à l'Assemblée.
Qu'ils ne prennent pas la parole au nom du groupe écologiste. Et en fait, c'est bien parce que ça permet aux femmes qui sont évidemment en plus grande fragilité et souvent en précarité, de se dire qu'elles ont un espace pour parler.
Une rentrée délicate donc pour les élus de la NUP. Ils tenteront de faire front commun, notamment contre le budget et contre la réforme des retraites.
Alors Astrid de Villene, ces affaires sont complexes. Vous qui avez écrit sur le sujet, quel est votre regard sur ces deux affaires, l'affaire Adrien Quatennens, dont on apprend que la femme a porté plainte, donc c'est plus qu'une main courante, et l'affaire Julien Bayou.
Peut-être pour rester général, et parce que c'est difficile de les mélanger, parce qu'elles n'ont absolument rien à voir, si ce n'est qu'on parle du droit des femmes. En prenant un peu de hauteur, on peut se dire que 5 ans après MeToo politique nous explose entre guillemets à la figure. C'est-à-dire que on prend conscience que les partis politiques sont des zones ordinaires, voire même peut-être plus dangereuses pour les femmes parce qu'il y a des enjeux de pouvoir et donc il y a énormément de sujets, de problèmes et ça va des violences domestiques, en l'occurrence pour Adrien Quatennens. Ah, pour l'affaire Bayou, je n'arrive pas à qualifier parce que je n'ai aucun fait et c'est un autre problème.
On va y revenir.
En tout cas, ce que ça montre ces deux affaires-là, c'est que les institutions traditionnelles dont on a besoin, la justice, la police, ne fonctionnent vraisemblablement pas parce que moi j'aimerais bien que ces sujets-là aillent dans nos institutions de l'État plutôt que dans des cellules mystérieuses, peu transparentes, au sein de partis politiques, ce qui montre déjà le conflit d'intérêts potentiel et présumé qu'il peut y avoir quand on s'auto-juge en interne.
Alix Bouillaguet, vous confirmez le milieu politique. Alors, et c'était peut-être pire avant, a toujours été un milieu, peut-être comme tous les autres, mais un milieu où il y avait du machisme, au moins autant qu'ailleurs, voire plus.
Ah oui, c'est un peu aussi le reflet de la société. Et c'est vrai aussi qu'on pensait que tout ça avait évolué, notamment avec certaines lois, les lois sur la parité, le fait qu'il y ait beaucoup plus de femmes aujourd'hui dans l'hémicycle. Mais on voit que finalement, ça a la peau dure, hein, ces vieilles manies, ces vieilles habitudes de fameux patriarcat. Après, c'est vrai que là où on peut être surpris, c'est que ces affaires, elles éclatent dans des partis qui étaient justement en fer de lance, à la pointe de ces luttes contre les violences sexistes et sexuelles, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, et on se rend compte que on a tendance souvent à stigmatiser plutôt la droite, les machos de droite, et on se rend compte que bah, non, c'est aussi un fonctionnement général, et y compris dans des partis qui sont censés être plus modernes et qui sont censés être plus en avance sur ces questions-là.
Et alors, si ça éclate dans ces partis-là, est-ce que c'est aussi peut-être parce que la cause féminine est, on est plus, j'allais dire, awake, on est plus sensible à la cause féminine dans ces partis.
Parce que dans ces partis-là, contrairement à d'autres partis, notamment je pense à la droite ou au Rassemblement national, il n'y a pas de cellule d'écoute. C'est-à-dire qu'une femme qui est confrontée à quelque chose de douloureux, de difficile, eh bien, elle va porter plainte. Il n'y a pas quelqu'un au sein de son parti qui pourrait l'aiguiller. Or, c'est vrai que c'est vertueux, ces partis de gauche, Parti socialiste, Parti communiste, LFI et Europe Écologie Les Verts, ont ces fameuses cellules d'écoute, mais on voit que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ça fait émerger, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont aux premières loges, mais ce n'est pas suffisant pour régler les problèmes.
Guillaume Daret, Astrid de Villene le disait, ces deux affaires sont différentes. Néanmoins, elles sont différentes, mais c'est vrai qu'il y a des voix pour défendre Julien Bayou, on va en parler, alors qu'Adrien Quatennens, il est beaucoup moins défendu, et pour cause, il y a cette gifle, au point qu'on dit qu'il ne sera pas présent, il ne doit pas venir aujourd'hui.
Mais a priori, effectivement, ça a été confirmé. On ne veut pas qu'on le voit. Hier, d'après nos informations, et ce matin par Mathilde Panot, qui normalement, il ne devrait pas être présent dans l'hémicycle. Après, c'est vrai que c'est autre chose. C'est-à-dire qu'Adrien Quatennens a lui-même avoué, entre guillemets, avoir giflé sa femme, l'avoir violentée. On n'est effectivement pas dans la même situation que celle de...
Sa carrière politique est quasi...
Lui qui était vu, effectivement, comme le successeur potentiel de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas s'il parviendra à se relever politiquement, mais c'est sûr que ça va être compliqué et ça va mettre du temps. Ces cellules, effectivement, on voit qu'il y a une part, comme le disait Astrid, de zone grise avec des enjeux politiques. Et pourtant, on voit par exemple, ça n'en dissuade pas certains, puisque je crois que c'est la semaine dernière où La République En Marche, devenue Renaissance, a lancé désormais une forme de cellule qui ressemble à ce qu'il y avait justement chez les écologistes ou au Parti Socialiste et qui sera portée par Marlène Schiappa. Donc ils se veulent absolument exemplaires sur ce sujet-là, mais c'est assez intéressant de voir que, y compris au sein de la majorité, où on tacle assez fortement les écologistes en disant « c'est absolument scandaleux, la justice doit se faire dans les tribunaux et pas ailleurs », eux-mêmes montrent ce type de structure-là. Ça montre bien qu'effectivement, il y a une dimension d'écoute qui relève peut-être pas de la justice, mais du parti.
Alors justement, ces cellules, comment fonctionnent-elles? Je vous propose d'écouter l'avocate de Julien Bayou, maître Marie Dauzet, pour qui tous les droits élémentaires de son client, Julien Bayou, sont bafoués. Julien Bayou ne sait même pas ce qui lui est reproché. On écoute maître Dauzet.
À 4 reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être auditionné devant cette cellule, ce qui lui a été purement et simplement refusé. Il est délibérément tenu dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés et des accusations portées à son encontre. Il n'a donc pas accès au dossier, il ne peut s'en entretenir avec aucun membre de la cellule. Seule Sandrine Rousseau a indiqué à Julien Bayou début juillet, je la cite, avoir mené son enquête, et je la cite toujours, n'avoir rien trouvé d'illégal. Ce que d'ailleurs, vous le savez, elle a confirmé à Patrick Cohen, hors antenne, à l'issue de l'émission C'est à vous.
Astrid de Villene, pendant tout le temps de cette enquête au sein de cette cellule, enquête qui doit durer 3 mois, Julien Bayou ne peut pas s'exprimer au nom d'Europe Écologie Les Verts, ce qu'a confirmé Sandrine Rousseau hier et ce dont elle se félicite. Dans son propre parti, ça tangue, hein, je cite Karima Deli, des eurodéputés Europe Écologie Les Verts, qui a tweeté « Le féminisme n'est pas l'inquisition ». C'est pas simple, hein. Je vous pose une question qui n'est pas simple.
C'est pas simple, surtout qu'en plus, c'est très peu transparent, je répète, ces instances-là. Moi, j'adorerais, je connais bien ces questions-là de violences faites aux femmes, j'ai écrit un livre là-dessus, j'adorerais aller voir comment ça se passe, par exemple. Je n'ai aucun accès. Donc moi, je journalistiquement, c'est très compliqué de commenter des choses. Donc bon. En revanche, ce qui m'a beaucoup étonnée, si on reste sur les faits, c'est samedi après-midi, on a vu d'ailleurs les écologistes qui ont conforté cette cellule en disant que le parti avait toute sa confiance dans cette cellule. Alors ça c'est vrai que je suis un petit peu tombée de l'armoire parce que on a cette femme qui n'a pas osé, l'ex-compagne de Julien Bayou, dont la parole a été relayée par Sandrine Rousseau. elle n'a pas osé aller s'exprimer sur dans cette cellule en disant que, évidemment, le patron du parti, Julien Bayou, était le mis en cause. Donc elle n'osait pas y aller. La cellule, on l'a entendu avec l'avocate, de son côté, n'a pas donc auditionné cette personne et n'a pas non plus auditionné Julien Bayou puisqu'elle n'avait pas les faits. Bon, donc là, pardonnez-moi, avec les éléments que j'ai, je ne vois pas l'intérêt de cette cellule. Donc je ne sais pas comment vous dire. Et je pense que chez les Insoumis, on a à peu près la même chose. Vous vous souvenez du cas qui avait été très... on en avait beaucoup parlé médiatiquement de Taha Bouaf, qui lui, pour le coup, avait été écarté très rapidement parce que des témoignages très graves, selon la cellule des Insoumis, étaient arrivés contre lui. Bon, il y a deux choses. La première, c'est que c'est vrai que le temps politique n'est pas le temps de la justice. Donc, les partis qui ont ces instances-là en interne vous disent, et je trouve que l'argument s'entend, nous, si on a par exemple 5 femmes qui arrivent, qui ne se connaissent pas et qui nous disent « cette personne m'a violée », par exemple, et qu'il est investi aux législatives, en attendant que l'enquête se mène, même si en plus parfois les femmes ne veulent pas aller devant les tribunaux ou devant dans les commissariats, on trouve ça, c'est complètement arbitraire et ils le reconnaissent, hein, presque. Enfin, je dirais. Mais ils se disent, vu que les femmes n'ont jamais parlé, vu que ça fait 5 témoignages, par une forme de prudence, on ne va pas investir cette personne. Ce qui pose un énorme problème d'un point de vue du droit. Hein. Mais on peut l'entendre aussi parce que souvent, il y a quand même on le voit par exemple dans les enquêtes de presse, les témoignages, ce qui s'est passé pour Damien Abad, les témoignages concordants, très graves, etc. Souvent, ça fait quand même...
un faisceau d'indices, comme on dit.
Et donc, pour en revenir à votre question en interne chez les écolos, en effet, j'ai l'impression que Sandrine Rousseau a posé une bombe, en fait, une petite bombe sur le plateau de C'est à vous, et que là, tout le monde est en train de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en plus, elle a rompu une forme de règle tacite qui existait depuis MeToo, qui était que on ne parle pas des personnes mises en cause tant qu'on n'a pas une plainte, à minima, ou une enquête journalistique consolidée. C'était la règle. Et d'ailleurs, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que Julien Bayou, il n'y a pas d'autres histoires qui vont peut-être sortir, peut-être qu'il y a d'autres femmes. Ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'en parlant d'un seul témoignage qu'elle avait reçu, sans qu'on puisse vraiment bien le qualifier. On a dit tous violence psychologique, mais moi, je n'ai pas lu. Je ne sais pas, en fait, ce qu'il y a dedans. Là, on est dans autre chose. Et ça dit, d'ailleurs, aussi le retard des institutions, hein, partis politiques, justice, à traiter ces sujets-là, parce qu'on voit, d'ailleurs, dans les chiffres du ministère de l'Intérieur, les plaintes de violences faites aux femmes augmentent. Les femmes ont envie de s'exprimer. Mais la justice, le reste ne suit pas.
Alors, c'est vrai qu'Alix Bouyaguet, il y a des voix qui s'élèvent hein, au sein du parti d'Europe Écologie Les Verts. Il y a aussi Eva Joly, alors qui était juriste, hein, et donc qui dit « Ces agissements hors de tout cadre desservent la cause qu'ils sont censés faire avancer et sont dangereux pour cela même qu'on prétend protéger. »
Oui, même David Cormand, qui est plutôt proche de Sandrine Rousseau et qui est l'ancien patron d'Europe Écologie Les Verts, lui aussi manie ça avec des pincettes parce qu'il ne veut pas non plus accabler Sandrine Rousseau. Je pense que ce qui pose vraiment problème, là, c'est la nature des faits. C'est-à-dire que autant une gifle reconnue par son principal auteur, bah, c'est carré, c'est simple et on peut mettre un mot dessus et puis c'est sanctionnable, autant des violences psychologiques, ça c'est gazeux.
Comportement de nature à briser la santé morale des femmes, mais rien n'est répréhensible pénalement dans son attitude.
Donc la question qu'on se pose...
Ouais, c'est compliqué comme phrase. Hein.
La question qu'on se pose, c'est jusqu'où on entre dans l'intimité des gens, jusqu'où on se penche sur la toxicité d'un couple,
qu'il est
d'une
un peu
rupture,
dragueur, immature, quoi,
qui soit chaud lapin, qui collectionne, que ce soit un collectionneur. Le seul souci, c'est qu'on dira toujours que l'homme est un séducteur et si la femme, c'était l'inverse, on dirait que c'est une pute. Donc ça pose toujours problème dans l'imaginaire aujourd'hui. Mais sur les faits, qu'un homme soit un coureur de jupons, bon, il n'y a pas non plus matière à réprimander. Voilà. Et après, rentrons dans la nature des faits. Et comme lui ne sait pas et que la principale intéressée ne va pas non plus dans le détail, donc ça se finit dans une discussion dans le salon de Sandrine Rousseau. Donc c'est ça qui est délicat et c'est ça qui jette la confusion.
Guillaume Daré, le JDD titrait hier « Comment Rousseau a fracturé les Verts ». Il y a un malaise chez les Verts. Et d'ailleurs, suite à l'article de Libération qui montrait comment, en fait, on a appris samedi matin que Julien Bayou était « espionné » entre guillemets par cette cellule depuis plusieurs années, depuis 3 ans, la parole va se libérer, lisait-on, au sein des Verts. Suite à cet article de Libération. Sandrine Rousseau, en fait, elle avait acquis une influence. C'était Madame Intouchable au sein, au sein des Verts. Et
moi, je pense que c'est pas pour ça que son influence va baisser, puisqu'elle assume cette stratégie, que ce soit sur cette question du droit des femmes ou sur les autres questions qu'elle a pu soulever. Je lisais il y a quelques jours qu'elle disait « Je trouve que la droite et l'extrême droite ont trop monopolisé le débat politique ces dernières années. Désormais, je veux, je souhaite et je ferai tout pour que le débat public se fasse autour de nos thèmes. » La défense des droits des femmes, la viande, le climat. Donc elle veut être clivante. Elle sait qu'elle a besoin d'être clivante pour que les débats se fassent autour de ces thèmes. C'est plutôt réussi. Après, c'est vrai qu'en interne, ça pose un vrai problème au sein de la NUP et en particulier au sein des écologistes, parce que beaucoup avancent, ce qui était dit effectivement notamment par Eva Joly, que ça va peut-être contribuer à la desservir et que dans une logique d'un parti et d'une gauche qui désigne Emmanuel Macron, la majorité, comme quelqu'un qui clive, c'est pas une stratégie politique, effectivement, du rassemblement en termes de projet politique.
Alors, elle clive, et son idée, cette idée de cellule interne au parti a été critiquée par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui, au passage, vous allez voir, a égratigné Sandrine Rousseau en la ciblant et en la citant nommément. On écoute le garde des Sceaux, c'était la semaine dernière au 4V.
Créer une justice parallèle, une justice de droit privé, c'est pour moi extrêmement inquiétant. D'ailleurs, j'ai vu que des avocats s'émeuvent de cela, bien sûr, des professeurs de droit, et ça n'est pas possible qu'on ait cette espèce de justice parallèle et de code de déontologie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je le redis, il y a un code pénal. Voilà. Madame Rousseau n'est pas procureure générale de la nation. Voyez-moi, tant qu'elle parle de barbecue, ce n'est pas mon périmètre. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand elle veut parler justice et qu'elle s'érige en autorité supérieure, je dis non. Non. Si vous avez des éléments, Madame Rousseau, alors je vous amène, et je vous invite à la lecture de l'article 40, vous transmettez au procureur de la République.
Là, il l'attaque un peu...
Elle lui a répondu ce matin sur France Inter.
À l'ancienne, hein.
En et disant, et sur la France 3 hier, qu'il ne vienne pas me donner des leçons.
Il la renvoie à ses chères études, un peu. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention? Alors, sur le fond, ce qui, vous l'aviez fait remarquer tout à l'heure, Astrid de Villene, ce qui est très curieux, c'est que le parti macroniste a lancé sa propre cellule interne, le parti Renaissance, que critique Éric Dupond-Moretti. Donc, tout le monde s'y perd dans cette histoire. Hein.
Oui, parce que le sujet n'est pas simple et parce qu'on est malheureusement en forme de début de révélation. MeToo n'a que 5 ans, en un sens. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup.
Donc c'est une révolution qui, forcément, casse des codes, quoi.
Et bien sûr, bien sûr. Après, ce qu'il faut quand même... Éric Dupond-Moretti, c'est un ancien avocat, donc il est très bon pour faire des effets de manche, comme dans un prétoire. Enfin, je trouve que Sandrine Rousseau, elle est aussi dans son droit de lui renvoyer à son bilan. C'est-à-dire que s'il y a toutes ces cellules, s'il y a tous ces problèmes et si personne n'ose aller en justice, c'est quand même lui qui est aux responsabilités depuis maintenant plusieurs années.
C'est parce que la justice ne fonctionne pas très bien sur ces affaires de violence sexiste.
Bien sûr. Elle, ça va mieux. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans le cas Quatennens, c'est que c'est quand même sous ce gouvernement que les mains courantes sont devenues quasiment des plaintes automatiques. Ça, il l'a dit, Éric Dupond-Moretti. Il y a eu des mieux. Il y a eu le Grenelle des violences conjugales. Il y a eu la loi Schiappa sur le harcèlement de rue qui a beaucoup fait, je pense, pour que les femmes soient un peu plus protégées dans la rue. Mais je veux dire, c'est 1% de tout ce qu'il reste à faire pour que les femmes se sentent en sécurité avant d'aller porter plainte. Moi, pour mon précédent livre, j'avais enquêté en Belgique. En Belgique, quand vous êtes victime de viol, vous n'allez pas dans un commissariat, vous allez à l'hôpital. Et c'est vrai qu'on peut tous comprendre pourquoi c'est beaucoup mieux. Donc vous allez directement à l'hôpital et vous êtes pris en charge par des médecins, des infirmières, des psychologues et des policiers spécialisés. Bah évidemment que le viol, c'est entre guillemets plus facile, je mets plein de guillemets, pour aller le dénoncer quand on est pris en charge, plutôt que d'arriver, vous voyez, on est tous déjà allés dans un commissariat, personne n'a envie, après une scène pareille, d'aller dans un endroit pareil. Donc, monsieur Dupond-Moretti, j'entends qu'il défende son institution, mais pitié que cette institution entende les femmes et les accompagne.
Alex Bouillaguet, sur la critique qui est faite contre ces cellules internes, ce que Éric Dupond-Moretti appelle une justice privée, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque qu'il y ait un agenda politique dans ces cellules internes et qu'elles soient utilisées pour se débarrasser d'un concurrent? Tiens, Julien Bayou, on va y régler son compte et je vais lui prendre sa place en lui balançant une boule puante.
Là, pour le coup, c'est même son avocate à elle qui explique qu'il y a une instrumentalisation politique. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un congrès en décembre et qu'il y aura un nouveau patron à la tête des Verts et qu'effectivement, il est en ligne de mire. En l'occurrence, je suis pas tout à fait certaine que ce soit le cas. Je pense que je pense pas qu'il y ait une instrumentalisation politique sur l'affaire Bayou. Mais c'est vrai que ça pose la question de la surface de ces cellules. Est-ce que ça doit juste être des cellules de signalement qui se contentent finalement éventuellement de faire un rapport et puis peut-être d'aiguiller et d'aider les femmes à aller porter plainte? Est-ce qu'il faut carrément que toutes les partis politiques mettent une forme de plateforme commune, un code de déontologie qui soit externalisé? Alors certains parlent que ce serait rattaché à la haute autorité, à la transparence de la vie publique, qui est un côté transversal.
Mais non pas au sein de chaque parti.
Et non pas au sein de parti. Parce que le problème, c'est que c'est le copinage aussi. Comme vous dites, ça peut être je veux faire tomber machin, donc je vais on fait mousser cette histoire, on la fait fuiter. Ou au contraire, il faut ménager truc-muche, donc rétention d'infos, plutôt poussière sur le tapis, on essaye de calmer les choses discretos. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a de la bonne volonté, c'est plutôt un mieux. Et c'est vrai qu'entre la justice...
Et ses imperfections
dont parle Éric Dupond-Moretti, et puis la justice privée, il y a peut-être un juste milieu qui serait un lieu quand même où on puisse s'exprimer.
Guillaume Daré, on voit très vite que la question s'est focalisée sur Sandrine Rousseau. Elle a dit d'ailleurs « je me suis fait beaucoup d'ennemis avec cette affaire ». Est-ce qu'il y a une rupture quand même au sein de ce parti Europe Écologie Les Verts, qui a l'habitude de se rétrécir? Est-ce qu'avec Julien Bayou, les ponts sont coupés? Est-ce qu'il y a une fracture? Elle s'est déjà fait Yannick Jadot à la présidentielle, et là, c'est Julien Bayou, quoi.
Ah, c'est sûr que Sandrine Rousseau, si on devait faire le bilan politique de l'année, elle a perdu la primaire interne aux écolos, mais c'est l'une, sinon, la révélation politique de l'année. Si on en fait une analyse objective, c'est une personne qui était assez peu présente dans les médias il y a un an, qu'on entendait assez peu.
Elle vient de faire la une de l'Obs.
Elle fait la une
de l'Obs
et de Valeurs Actuelles. Elle impose ses thèmes. Après, elle est clivante au sein du parti, mais, alors, je ne suis pas le seul, puisque vous êtes, vous aussi, homme autour de ce plateau avec moi, mais il y a quelque chose qui me marque quand même, si on va être totalement honnête, c'est que, y compris dans mon entourage avec les femmes avec qui vous parlez de Sandrine Rousseau, y compris celles qui la trouvent trop excessive, disent néanmoins, elle met quand même des sujets sur la table. Et elle a peut-être des côtés négatifs, elle a peut-être des côtés excessifs, néanmoins, tous les sujets qui sont mis sur la table ne sont pas ridicules. Et évidemment, là, je ne vous parle pas du droit des femmes. Je parle, à la limite, y compris du barbecue, de la viande. J'ai discuté avec une amie ce week-end qui me disait, une amie qui mange de la viande, qui mange des barbecues, mais qui me dit, voilà, il ne faut pas balayer ça d'un côté ridicule. C'est un vrai débat. Et Sandrine Rousseau, je pense qu'elle est vue aujourd'hui, à commencer par les femmes, sur les combats qu'elle mène, comme quelqu'un de peut-être un peu excessif, mais qui dit quelque chose de vrai de la société française.
Voilà. Un mot sur Adrien Quatennens. Alors, il a démissionné des postes à responsabilité de la France Insoumise, mais il reste député. Bon, il n'ose pas venir aujourd'hui. Ça va être compliqué pour lui de revenir dans le jeu politique et de rester député.
Oui, forcément. Tant qu'en plus on n'a pas de décision de justice, on va être dans ce flou. C'est-à-dire qu'on a en effet c'est un cas inédit, hein, d'ailleurs, Adrien Quatennens, hein, parce que d'habitude, vous avez toujours les hommes mis en cause qui se défendent et qui nient. Qui disent non, il ne s'est rien passé. On l'a eu avec énormément d'hommes politiques depuis plusieurs années. Là, on a des aveux, donc c'est vrai que ça nous surprend tous. Moi, je vois pas comment c'est tenable politiquement. Hein. Je comprends pas, parce que s'il est là, c'est très très embarrassant pour tous ses camarades qui siégeront à côté de lui, vu les thèmes qu'il porte, c'est-à-dire là pour le budget par exemple, 1 milliard, le fameux amendement 1 milliard d'euros par an pour les violences, enfin pour éviter les violences faites aux femmes. Et s'il ne vient pas, on est à deux doigts de l'emploi fictif, hein, pardonnez-moi, mais un député de la nation payé qui ne vient pas, qui ne travaille pas, c'est très compliqué à défendre, je trouve.
Mais il y a un autre exemple dans l'Assemblée qui est Damien Abad. Ouais. Damien Abad qui est redevenu député après avoir
quitté
le gouvernement. Non, il a nié. Effectivement, il y a une nuance importante. Mmh. Néanmoins, comme on disait tout à l'heure, il y a un faisceau d'indices objectifs, même si on n'est pas, nous, là pour rendre la justice. Et qui est toujours député. On va voir s'il est présent dès l'hémicycle. Mais rappelez-vous, il y avait un petit article, je crois, du Canard Enchaîné qui avait expliqué qu'au sein de Renaissance, c'était compliqué parce que personne, c'était un pestiféré et que personne ne voulait s'asseoir à côté de lui dans l'hémicycle.
Mmh. Alix Bouillaguet, Astrid de Villene, faisait remarquer ce qui est embarrassant avec Adrien Quatennens, c'est que comme il a avoué la gifle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit dessus. Est-ce que la grande erreur de Jean-Luc Mélenchon, ça a été de penser... ce fameux dicton, la faute avouée, à moitié pardonnée. Mon petit gars, tu l'as dit, bon, tu ne referas plus, hein.
Oui, je posais la question ce matin à Raquel Garrido, donc, qui est députée LFI. Déjà, je lui demandais, après notre interview, si comment Adrien Quatennens avait conçu sa défense, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en avait parlé politiquement, et j'ai l'impression qu'il a un tout petit peu fait ça dans son coin, c'est-à-dire que les camarades insoumis ont lu, comme tout le monde, les révélations, les détails, souvent intimes, de cette rupture dans ce couple. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'était d'ailleurs aussi contre son avocat qui lui déconseillait de faire ça. Mais effectivement, c'était finalement se dire, bon, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette main courante. Moi, je sais ce que j'ai fait, à minima. Est-ce que je commence pas à me dédouaner ? Parce que sinon, ça va être le petit feuilletonnage de « il a fait ci, il a fait ça » au gré des fuites. Oui, sauf que... Quand on avoue un acte comme celui-là, c'est vrai qu'on devient inaudible. Et c'est vrai qu'il vaut mieux parfois en dire un minimum, attendre qu'il y ait cette justice qui passe.
Si vous aviez été son avocate, vous l'auriez conseillé différemment.
J'aurais dit de se taire, voilà. Et puis une actualité en chassant une autre, bon, je ne sais pas s'il serait passé à autre chose, mais en tout cas, ça n'aurait pas eu l'ampleur que ça a pris.
En tous les cas, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a été très critiqué pour ses mails bienveillants à l'égard de son ami Adrien Quatennens. Jean-Luc Mélenchon qui est aujourd'hui lâché, y compris par ses lieutenants. Je vous propose d'écouter François Ruffin qui clairement prend ses distances maintenant avec son ancien patron. Il était l'invité de France Info la semaine dernière.
Moi je pense que Jean-Luc Mélenchon a confondu deux registres. Il a confondu un registre de l'amitié et qui est un registre de l'ordre privé. Et on n'a pas retiré son amitié à quelqu'un quand il faute ou quand il chute, vous voyez, ça, pour moi, ça va de soi, avec une réaction politique, c'est-à-dire d'un dirigeant dont on attend qu'il défende ses principes, même quand ce sont les siens qui sont en cause. Je pense que c'est ça qui a été perçu, c'est cette dissonance. Et des derniers échanges Jean-Luc Mélenchon dans les médias, je vois que lui-même a perçu cette dissonance et qu'il essaye de raccommoder ça.
Il a dit personne n'est parfait, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas excusé, hein, ouais. Jean-Luc Mélenchon.
Non, mais j'ai pas dit qu'il s'excusait, mais en tout cas, il dit personne n'est parfait, c'est déjà un pas.
Ça, le petit sourire de François Ruffin à la fin montre qu'il n'est pas mécontent de se débarrasser de la statue du commandeur, non, Astrid de Villene. Est-ce que là, Jean-Luc Mélenchon, il a pas compris ce qui lui est arrivé là, avec cette affaire ?
Je crois que oui, c'est le deuxième aveu de cette affaire. Il y a l'aveu Quatennens et il y a l'aveu Mélenchon. Je ne comprends rien aux violences faites aux femmes et je le brandis comme un étendard pour gagner des points aux élections parce que ça marche, hein, le féminisme, et dans les librairies et dans les urnes. Mais ou alors il a tweeté trop vite. Mais ce qui moi je crois que ça arrive à tout le monde de tweeter trop vite. Mais dans ce cas, il faut s'excuser ou dire ah bah pardon, ouais. Mais il a toute la semaine gardé sa ligne en disant que c'était super. Moi, j'ai échangé des textos avec lui. Il l'a dit d'ailleurs dans son blog. Il parle d'un divorce conflictuel. Je veux dire, on est complètement à côté de la plaque. Donc maintenant politiquement, les successeurs potentiels de Mélenchon, il y en a un qui est écarté, Adrien Quatennens. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle en psychanalyste, ils tuent le père. Parce que s'ils veulent émerger sur, entre guillemets, les ruines d'un Mélenchon qui a perdu 3 présidentielles et qui, là, ne s'est vraiment pas grandi dans cette affaire, il faut qu'ils le disent, haut et fort. Et il y en a peu qui osent le dire, parce qu'en effet, Jean-Luc Mélenchon, il a quand même un statut à part dans la vie politique française. C'est pas un parti où on débat, c'est vraiment l'opposé des écolos, vous voyez. C'est pas un parti où on débat, où on a le droit de critiquer le chef, etc. C'est très clanique, très vertical. Donc, moi, je trouve que Ruffin, il y va pas très fort. Si j'étais lui, j'irais plus fort. Mais j'ai l'impression qu'ils n'osent pas encore se débarrasser du chef qui les a quand même portés jusqu'à ces 22%-là et qu'on est un petit peu tétanisé dans l'entourage et dans les lieutenants aujourd'hui à l'Assemblée. Regardez Manuel Bompard qui a fait cette réflexion, qui a minimisé cette gifle le vendredi de la semaine, un peu la semaine noire des Insoumis. C'est pareil, c'est-à-dire soit c'est une méconnaissance, soit c'est on reste dans la lignée du chef.
Lui a officiellement plus rétro-pédalé que Mélenchon,
oui,
à la limite.
Enfin, oui, c'est vrai. Parce qu'il a encore un grand avenir politique et qu'il est peut-être plus jeune. Mais en fait, ça dit aussi que... Et puis je trouve que les femmes du parti, elles ont quand même été...
À Manon Aubry, après ouais. Ses distances.
Bien sûr, mais elles ont comme ça été projetées en première ligne pour défendre la ligne féministe. C'est quand même particulier. Hein. On n'est pas obligé d'être une femme pour défendre le féminisme, hein, quand même. Hein. C'est un peu... Et je trouve qu'elles elles ont mis la petite distance qu'il fallait parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Mais pareil, elles auraient pu y aller plus fort. Il y avait d'autres crans. Hein.
On hésite à tuer le père.
C'est ça qui était quand même frappant pendant toute cette séquence. C'est de voir que finalement, les seuls qui reconnaissent reconnaissaient d'ailleurs des maladresses, reconnaissaient de tâtonner, c'était des femmes. C'est-à-dire que pendant 3 jours, les hommes étaient aux abonnés absents, pour la plupart, mis à part les tweets de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, alors, c'est le pire et le meilleur. À la fois des intuitions géniales, à la fois des... un virage écologique qu'il a su prendre, qu'il a su faire prendre à son parti, un positionnement où effectivement on est très souple sur les appuis en fonction des électorats. Et puis, ce dérapage qui est plus que ça, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon nous a prouvé qu'il n'avait rien compris au virage féministe. À l'écologie peut-être, un peu, mais au virage féministe, rien. Il a, finalement, c'est un homme de son temps, il a 71 ans, c'est ça. Donc qu'il n'aille pas nous faire croire autre chose. Je ne pense pas du tout au tweet trop rapide. Je pense qu'il a juste exprimé sa pensée. Sa pensée, elle était avant tout affective, elle était avant tout politique. Affective parce qu'il aime beaucoup Adrien Quatennens, politique parce que c'est son dauphin. Voilà. Donc il a un problème et Céline Quatennens, c'est moins son problème.
Ce qui sera intéressant de voir, c'est si est-ce que ça crée une rupture profonde dans l'électorat. Parce que ce qu'on a vu quand même au cours de la campagne présidentielle et des législatives, quand vous alliez dans les meetings, et y compris les rivaux de droite ou de gauche de Jean-Luc Mélenchon, disaient... C'est la France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est le seul à réunir autant de jeunes, notamment dans ces meetings. Des jeunes qui étaient totalement, qui correspondent totalement à la jeunesse, qui est très engagée effectivement dans la cause écologiste et dans la cause féministe. Est-ce que ces mots-là vont provoquer une rupture
Ils chutent dans les sondages,
entre cette jeunesse et Jean-Luc Mélenchon, et qui, derrière, à la France insoumise, pourra tenter finalement de recoller les morceaux? C'est ce qui sera intéressant, parce que cette jeunesse-là, elle s'était engagée à la France insoumise.
Astrid de Villene, Jean-Luc Mélenchon, c'était le ciment de cette NUP. Est-ce qu'il y a un Jean-Luc Mélenchon fragilisé, qui chute dans les sondages? Est-ce que ça redistribuait le paysage politique à gauche, et est-ce que ça fragilise la NUP?
Oui, forcément. De toute façon, toutes ces affaires, l'affaire Bayou aussi d'ailleurs, fragilise la NUP, parce que Bayou cumulait 2 postes. Il avait d'ailleurs pas le droit, mais il cumulait 2 postes. Patron des Verts, patron du copatron du groupe à l'Assemblée. Donc les 2 affaires fragilisent en effet la NUP, surtout que le Parti Socialiste, qui n'est pas touché dans ces affaires-là et qui a été plutôt précurseur d'ailleurs, qui a demandé à Mélenchon d'intervenir assez vite sur Quatennens, etc., est quand même très affaibli par le dernier score d'Anne Hidalgo, 1,75%. Donc déjà, cette NUP, moi je trouve qu'on l'a beaucoup... Jean-Luc Mélenchon, avec son talent, a réussi à la vendre comme une victoire. Moi, je le dis dans le livre, ce n'est pas une victoire, la NUP. C'est une victoire politique pour se sauver, pour éviter le pire. C'est-à-dire qu'après des années de désunion, ils ont réussi à s'unir, ce qui était déjà assez énorme, et ils ont réussi à sauver les meubles. Mais 151 députés de gauche, toutes mouillées, sur 577, on n'est pas, on est toujours dans une défaite. Enfin, on n'est pas dans les grandes heures du RPR, par exemple, avec 300 députés, ou du Parti Socialiste sous Hollande avec 300 députés. Donc, déjà que c'était pas une union qui était très simple, on voit le Parti Socialiste avec toute son aile droite qui part, qui ne veut pas que Jean-Luc Mélenchon soit le centre de cette NUP. Déjà qu'elle était fragile, là, en effet, elle est, je vais pas dire à terre. Enfin, elle est en très mauvais état.
Guillaume Daréal, va être compliqué à organiser. C'est dans 2 semaines, la fameuse marche de Jean-Luc Mélenchon contre la vie chère, pour le pouvoir d'achat et contre l'inaction climatique, parce que ça devait être son jour, Mélenchon, là.
Ça va être compliqué pour organiser pour Jean-Luc Mélenchon au sein de la France insoumise, effectivement avec ses alliés de gauche. Et on voit que tout ça crée un climat qui est délétère, que ce soit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon ou les propos clivants de Sandrine Rousseau. Parce qu'on a vu aussi qu'il y a eu toute cette question aujourd'hui, les adversaires de Sandrine Rousseau et les féministes au sein de la France insoumise, qui ont été accusés, vous savez, de ne pas en faire assez, par exemple, sur la question iranienne. Et ce matin, eh bien, en quelques minutes, on a vu Sandrine Rousseau et Laurence Rossignol, qui est sénatrice socialiste, si j'ose dire, se taper dessus à distance, accusant l'une ou l'autre d'avoir été sifflée, pas sifflée. On voit que le contexte interne à la gauche est extrêmement difficile. Et surtout, ce qui va affaiblir Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'y avait pas eu vraiment de discussion sur qui est leader de cette union de la gauche lors des législatives. Le résultat de la présidentielle, finalement, avait clouté le fait que c'était Jean-Luc Mélenchon et que, d'accord ou pas sur un certain nombre de points idéologiques, on se rangeait derrière lui. Ça va être très différent dans les mobilisations à venir. Et vous voyez bien notamment Olivier Faure, qui désormais veut prendre la parole tout seul.
Finalement, Alix Bouyagué, moi je me mets à la place de la Macronie. Vive Sandrine Rousseau, elle a atomisé l'opposition de gauche et la voix de Jean-Luc Mélenchon. Le 16 octobre, ça devait faire trembler le régime. On ne sait même pas ce qu'il va devenir de cette grande marche contre le gouvernement.
Oui, non, c'est vrai que pour eux, c'est un effet d'aubaine, hein, ouais. cette Sandrine Rousseau. Même si effectivement, je pense qu'ils auraient bien tort de penser que ce n'est qu'une sotte qui met sur la table des sujets totalement abscons et lointains. Je pense qu'elle met des vrais sujets, qu'on soit d'accord ou pas avec elle. Donc il ne faudrait pas non plus la traiter de haut et en faire une martyre, parce que ça peut aussi l'avantager. Après, la fragilisation de Jean-Luc Mélenchon, ça peut avoir un avantage au sein de la NUP. Est-ce que le Parti Socialiste, il y a un congrès là aussi à la fin de l'automne, est-ce que le Parti Socialiste saura récupérer la manne? C'est une question, c'est vrai qu'on ne voit pas Olivier Faure pour l'instant dans ce rôle-là. Et puis, le deuxième peut-être gagnant, est-ce que Fabien Roussel, lui aussi, avec des propos qu'on peut aussi trouver clivants, mais en tout cas qui s'inscrit et qui a le mérite de la cohérence et de la clarté, est-ce que lui aussi pourrait retrouver une forme de leadership au sein de cette NUP à la dérive? Pourquoi pas?
Bah lui, on en a parlé. Hein. C'est la gauche barbecue, c'est l'anti-Rousseau. Hein.
C'est l'anti-Rousseau.
C'est la gauche Rousseau contre la gauche Roussel.
C'est la gauche du travail et c'est la gauche de la viande.
Alors justement, est-ce que cet affaiblissement de la gauche peut aider le gouvernement, et notamment Emmanuel Macron qui l'a dit, va inscrire la loi sur la réforme des retraites, qui sera donc une loi au début de l'année 2023. L'objectif, c'est de repousser l'âge légal de départ. Quels seront les contours de cette future réforme? Un sujet de Gaspard de Florival et Salah Agrabi.
Pas question de reculer pour Emmanuel Macron, il faudra travailler plus longtemps. Le gouvernement veut pousser le curseur de l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans d'ici 2031. Inacceptable pour les syndicats qui appelaient au rassemblement. À Paris, la question des retraites était dans toutes les têtes. 65 ans, c'est non.
Il y a 3 millions de chômeurs, voire plus. Et les jeunes sont sans boulot. Et on va faire continuer à travailler les vieux jusqu'à 65 ans. Donc je ne suis pas d'accord.
Ça va faire surtout beaucoup de salariés qui vont être vieux et qui vont avoir des pensions courtes et qui vont être encore plus fatigués et qui ne vont pas pouvoir profiter de leur retraite.
Le patron de la CGT dénonce également un manque de dialogue avec le gouvernement.
C'est un passage en force. Et c'est pas une question de méthode. C'est au bout, je veux vous travailler plus longtemps, point. C'est pas comme ça qu'on conçoit la négociation et la discussion.
Dans le détail, seraient concernées par cette réforme les générations nées à partir de 1966. Décaler l'âge de départ à la retraite, c'est plus d'actifs en emploi plus longtemps et plus de recettes selon Bercy, 25 milliards d'euros au bout de 10 ans. Mais les Français sont-ils prêts à travailler plus longtemps? Dans cette entreprise qui fabrique des machines de recyclage, du travail de bureau pas très physique, alors partir plus tard n'inquiète pas ce jeune développeur.
Comme je n'ai pas un métier qui est difficile ou un métier manuel, en tout cas, j'ai juste besoin de mon cerveau et je suis assez confiant sur le fait qu'il fonctionnera encore à 65 ans.
Alors, il faut regarder le troisième capteur qui est là.
D'accord.
Mais certains estiment que ce raisonnement ne peut pas s'appliquer à tous les métiers.
CQFD.
Ceux qui installent les machines, ceux qui les réparent, portent les gros trucs, eux, ça risque d'être problématique.
Emmanuel Macron souhaite la mise en œuvre de la réforme des retraites dès l'été prochain.
Bon, Astrid de Villene, pourquoi la fait-il cette réforme des retraites? Là, c'est le bazar assuré. Les 70% des Français sont contre. Forcément qu'il va le payer.
Il y tient. Déjà, il l'avait déjà essayé de la faire lors de son premier quinquennat. Hein. En 2020, elle devait passer par 49.3. Déjà à l'époque, ça nous rappelle des souvenirs. Et c'est le coronavirus, la crise du coronavirus qui avait tout, après une grève record de la SNCF et de la RATP, qui avait tout annulé. Donc il y tient depuis longtemps. Ce qui a changé par rapport à la première mouture made in Édouard Philippe, si je puis dire, c'est le but de la réforme. À l'époque, c'était de supprimer les régimes spéciaux, ça on y tenait beaucoup, et de rendre le régime des retraites à l'équilibre. Aujourd'hui, Emmanuel Macron assume quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire des économies pour les retraites. Il veut utiliser cette manne financière du travailler plus pour financer des politiques publiques de grande ampleur qui vont très mal aujourd'hui, l'école, la santé, la transition écologique. Sauf que moi, ce que je trouve sur la forme, c'est qu'il ne l'assume pas vraiment comme ça. Il l'a dit de manière très privée devant l'association de la presse présidentielle, un peu un off, à moitié off, auquel moi j'ai participé, qui était très étonnant. Pourquoi il n'a pas fait une grande interview devant les Français pour convaincre? Après, on a vu cette histoire de PLFSS, l'amendement au projet de loi de sécurité de la du financement de la sécurité sociale. Alors, est-ce que on va le faire tout comme ça en douce? Tous les lieutenants du chef de l'État avaient l'air de dire que c'était super, comme ça les Français ne se rendraient pas compte. Bayrou est monté au créneau et aujourd'hui, on arrive à un projet de loi sans doute ad hoc en 2023 et encore, on n'est même pas sûr. Ça, je trouve que ça crée de la confusion et du coup, que ça montre comme une forme d'hésitation en fait du chef de l'État. Et ça, je pense que c'est de nature en fait à favoriser aussi l'opposition dans la rue, les syndicats et tous ceux qui ne veulent pas de cette réforme pour des arguments politiques ou sociaux.
Guillaume Darey, que va faire la droite? Parce que quand même, repousser l'âge légal de la retraite, réformer les retraites, c'est dans l'ADN de la droite. Est-ce qu'elle peut décemment ne pas voter pour cette réforme qui, c'est vrai, est impopulaire?
Ça semble compliqué. Elle est très embêtée. Il y a la semaine dernière, quand vous en parliez avec notamment le patron des députés LR, Olivier Marleix, il disait on ne décidera pas et on ne votera pas avec un pistolet sur la tempe. C'était dans l'hypothèse d'un amendement immédiat à l'automne. En revanche, quelques heures après, quand j'ai échangé avec lui en lui disant finalement, ça va être dans 2-3 mois, il repousse, qu'est-ce que vous allez faire? Il me disait ça va être beaucoup plus compliqué pour nous. Et certain que ce qu'on va voir dès ce soir, par exemple, sur l'assurance chômage, où le gouvernement compte justement sur la droite pour faire voter ce texte qui devrait être le cas, va se reproduire évidemment sur la question des retraites. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on va avoir un automne, on parlait tout à l'heure du PS, des écologistes, LR aussi va choisir un nouveau chef. Et même si ce n'est pas la raison principale, la Première ministre Elisabeth Borne nous expliquait l'autre jour que le texte sur les retraites, s'il est fin décembre, début janvier, ça sera un moment où LR aura terminé son congrès et qui sera donc un moment où ils seront moins enclins à être les plus radicaux avec le gouvernement et que donc ça pourrait peut-être faciliter une discussion pour faire voter ce texte.
Alix Bouyaguet, c'est terrible. Pour la droite, elle en est réduite à être ce qu'elle ne voulait pas être, c'est-à-dire un supplétif, la roue de secours, la béquille d'Emmanuel Macron.
Oui, alors elle se préfère effectivement en rôle pivot plutôt qu'en supplétif avec le pistolet sur la tempe. Après, ils peuvent inverser les choses, c'est-à-dire que se dire que...
Qu'est-ce qui lui reste comme thème à porter?
Déjà sur ses propres thèmes, d'accord, pour ne pas être prise au dépourvu, elle peut aussi durcir, c'est-à-dire brouiller le jeu du côté de la majorité. C'est-à-dire que si elle se met, notamment sur l'assurance chômage, à faire des amendements très durs, à durcir ce texte, à le radicaliser, eh bien, c'est la majorité qui avait des problèmes avec son aile gauche. Donc elle peut aussi mettre le bazar dans le camp d'en face et puis assumer finalement ce pourquoi elle est là, mais aller jusqu'au bout.
Alors, la droite, est-ce qu'il lui reste sur l'économie? Ça va être difficile de critiquer le gouvernement. En revanche, elle commence à le critiquer sur le terrain de l'immigration. Je vous propose d'écouter Gérard Larcher. C'était la semaine dernière et il mettait en garde Emmanuel Macron en disant si Emmanuel Macron ne fait pas plus preuve de fermeté sur le terrain de l'immigration, eh bien, tôt ou tard, en France aussi, il y aura l'extrême droite au pouvoir. Je vous propose d'écouter Gérard Larcher. C'était au 4V.
Sans politique migratoire. Oui. Volontariste, nous aurons un jour les votes de la Suède et peut-être, et je le regrette, dimanche, les votes de l'Italie.
Ça veut dire quoi qu'Emmanuel Macron, avec sa politique aujourd'hui, est en train de préparer le terrain, Marine Le Pen?
Voilà pourquoi il faut changer de politique. Voilà pourquoi il faut un texte migratoire.
Alors Astrid de Villene, est-ce que là, la droite a trouvé un os à ronger, comme on dit, le terrain de migration?
Oui, c'est peut-être presque la seule chose qui reste pour marquer sa différence, parce que moi j'aime bien le rappeler, mais les ténors de droite, les anciens de l'UMP et des Républicains, ils sont au gouvernement, hein, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, les conseillers même d'Emmanuel Macron, les conseillers ministériels, toute la droite est au pouvoir, Nicolas Sarkozy est très proche d'Emmanuel Macron, donc il faut bien qu'ils trouvent un chemin. Sur l'immigration, il va y avoir un débat porté par Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a un autre thème sur lequel Olivier Marleix à l'Assemblée veut peser, c'est sur la politique énergétique de la France. Il veut faire une commission d'enquête, il veut démontrer que Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur en fermant Fessenheim dans la lignée de François Hollande. Alors que voilà, là-dessus, sur la droite, ils n'ont pas vraiment dévié du tout, ils ont toujours été pro-nucléaire, donc ça peut être aussi une façon de montrer qu'ils sont plus responsables aux yeux de leur électorat. Mais c'est vrai que ce congrès, moi, j'ai tendance à dire que c'est un petit peu le combat des nains, sans être méprisante. Mais ce n'est plus du tout la droite comme on a pu la connaître. Les Français, je pense, ne connaissent pas Aurélien Pradier, Bruno Retailleau, enfin, peut-être un petit peu plus. Mais on est dans un paysage politique pour la droite qui s'est extrêmement rétréci, pris en tenaille entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national, voire Éric Zemmour, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est difficile d'exister. Heureusement, finalement, qu'ils ont ce rôle un peu pivot à l'Assemblée, ou central, ou supplétif, peu importe finalement comment on l'appelle. Ils ont un rôle important. À mon avis, pour eux, ils n'ont pas intérêt à se mettre dans une opposition bête et méchante, parce que c'est vrai que quand on prend tout leur programme, Valérie Pécresse avait dit d'ailleurs très bien, la Macronie fait un copier-coller de mon programme. C'est vrai que si leur programme est au pouvoir, je pense que leur électorat ne comprendrait pas qu'ils ne votent pas une réforme des retraites, une réforme de l'assurance chômage. Mais je peux me tromper, elle est pas simple à voir pour eux. Hein.
Est-ce que Guillaume Daret, il n'y a pas la tentation, puisque ce qui s'est passé en Suède, ce qui s'est passé en Italie, a montré que l'union des droites, quand la droite et l'extrême droite se mettaient ensemble, elles gagnaient les élections. Est-ce qu'il peut y avoir la perspective de faire cette fameuse union des droites, de faire sauter la digue avec le Rassemblement national?
Moi, je ne le vois pas au quotidien. J'ai le sentiment que c'est un petit peu le serpent de mer, y compris nous, médias, on a régulièrement comme débat. Pour l'instant, parmi les principaux candidats à la tête des Républicains, en ce moment ou même pendant la primaire, aucun ne s'était prononcé clairement pour un accord avec Éric Zemmour ou avec le Rassemblement national. Et il faut voir qu'à part Guillaume Pelletier, qui avait quitté les Républicains, il n'y a pas eu de fuite des Républicains vers Éric Zemmour ou Marine Le Pen durant la campagne présidentielle. Quand bien même, si on ne pensait pas que Valérie Pécresse ferait moins de 5%, on voyait bien que ça ne se passait pas bien. Il n'y a pas eu de fuite de la part des Républicains. Moi, ce que j'ai le sentiment, c'est qu'une partie quand même des ténors des Républicains ont compris, Laurent Wauquiez le premier, qui évidemment a une visée vers 2027, que ça ne servait plus à rien de taper comme un sourd sur Emmanuel Macron. Pour la raison simple qu'est que dans 4 ans et demi, Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat à sa réélection. Donc oui, ils veulent jouer un rôle d'opposant, mais un rôle d'opposant intelligent pour arriver devant leurs électeurs en disant effectivement, vous voyez, la réforme des retraites, on était pour, on l'a voté. Vous voyez, la réforme de l'assurance chômage, elle n'était peut-être pas assez dure. On a poussé un amendement, c'est pour ça qu'on l'a voté, tout en construisant un projet alternatif pour dans 4 ans et demi. Parce que paradoxalement, ce qui est parfaitement vrai dans ce que dit Astrid, c'est que la droite étant au pouvoir, il y a aussi un risque pour les Républicains, finalement, d'être victime d'une alternance dans 4 ans et demi. D'une alternance parce que les Français ont eu le sentiment que la droite était au pouvoir, alors que les Républicains, officiellement, ne sont pas au gouvernement.
Et puis, concernant l'union des droites, c'est vrai que pour faire une union des droites, il faut que les droites le veuillent. Et la première qui est concernée, c'est Marine Le Pen, Rassemblement National. Et elle ne croit pas du tout en cette union des droites parce qu'elle croit en autre chose. Elle ne pense pas qu'un jour, elle pourra réunir dans un seul panier toutes les sensibilités de droite jusqu'à l'extrême droite. Elle pense que ce sont les mondialistes contre les souverainistes. Et ça veut dire que ses alliés, ils peuvent venir de la gauche. Donc elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Et en plus, elle n'en a pas besoin. Elle a 89 députés aujourd'hui. Elle est dans une dynamique. Elle est forte toute seule.
Alors en tous les cas, c'est vrai que ces questions d'immigration et d'identité et de laïcité s'invitent sur tous les terrains. Vous y faisiez référence tout à l'heure, Guillaume Daret. Hier, Sandrine Rousseau est allée défendre le droit des femmes, place de la République, le droit des Iraniennes. Eh bien, elle s'est fait siffler. Pourquoi ? Parce qu'on l'accuse de ne pas être assez ferme sur les questions de laïcité et de port du voile. Et donc, Sandrine Rousseau s'est fait rattraper. Astrid de Villene, c'est un peu aussi, là aussi, il y a une fracture entre ces deux gauches dont on parlait tout à l'heure. La gauche Rousseau, qu'on va accuser de ne pas être assez ferme sur la laïcité, et la gauche Roussel, qui est beaucoup plus droit dans ses bottes et qui défend le barbecue et la laïcité à façon 19e siècle, 3e République.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est aussi la même chose sur le barbecue, sur l'identité, en fait. Moi, ce qui me frappe dans la gauche actuelle, c'est qu'elle est devenue identitaire. À tout point de vue, on peut tous les mettre dans une catégorie identitaire, alors même que c'était un mot qu'ils réservaient avant à l'extrême droite ou à la droite et dont ils se méfiaient. Il n'y a plus du tout d'unité sur les valeurs ou les principes fondamentaux à gauche. Et ça, c'est très ennuyeux parce que ils ont passé finalement l'année dernière à se taper dessus sur ces questions-là. Alors qu'à mon avis, en plus, je pense que ça peut se dépasser. Je pense que c'est vraiment se regarder le nombril, hein, c'est un peu franco-français. Je crois que la révolution iranienne n'est pas du tout la même chose que ce qui peut se passer en France. Je pense qu'il y a du vrai et du faux dans toutes les composantes. Je trouve que ça se recroqueville, en fait, au lieu de respirer un peu et de prendre de la hauteur pour retrouver ce qui rassemble, en fait, les composantes de gauche. Et pour revenir sur ces affaires, notamment Bayou, c'est très frappant de voir le temps qu'ils perdent, en fait, à parler de ce genre de sujet qui, pour l'instant, n'a pas de consistance. Alors, après l'été qu'on a eu, alors que l'écologie est dans toutes les têtes, alors qu'il y a un vrai besoin de projets alternatifs, en fait, au pouvoir sur l'écologie, alors qu'on a un ministre de l'écologie, Christophe Béchu, qui est absent, il y a un boulevard, finalement, à gauche. Et ils arrivent, en effet, à s'envoyer des petits tweets sur tous les sujets qui sont clivants. Je pense qu'en plus, c'est très éloigné des préoccupations des Français. Le Rassemblement national, c'est eux, hein, surtout plus que la Macronie, qui se félicitent de ce qui se passe à gauche. Ils hallucinent. Moi, j'ai parlé avec certains qui me disaient, mais on pensait pas que ce serait si facile, en fait.
Il va falloir que les Verts sortent par le haut de cette crise.
Je ne sais pas s'ils y arriveront. Je ne sais pas si c'est possible dans leur logiciel. C'est un tout petit parti. Ça fait depuis 1974 qu'ils sont à l'élection présidentielle. Ils n'ont jamais dépassé les 5%.
Bien voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.